Petite présentation rapide et ensuite on présentera nos invités. Donc alors on se présente, Christophe Averlan qui est ici présent et moi-même, nous sommes donc les cofondateurs de Médianary et Communication et on existe depuis 1999, ce qui fait bientôt maintenant allègrement 25 ans. Ça ne se voit pas, ça ne se voit pas. Notre cœur de métier dès le début, puisqu'on travaillait tous les deux en société de production, a été d'avancer sur l'évolution de carrière des acteurs et des actrices, et donc sur le développement de leur parcours, trouver un agent, savoir s'entourer, trouver des castings, développer son réseau pro, explication du marché, et travailler sur son image. On travaille là-dessus et on travaille aussi sur le coaching jeu, en préparation d'essais, de rôles, de self-tape qui se font de plus en plus aujourd'hui, en mettant toujours plus en avant la singularité de chacun et de chacune pour l'audiovisuel et le spectacle vivant. Je te laisse continuer.
Oh bah si tu veux, on aborde tous ces sujets donc de façon di de différentes façons. Donc ça peut être de façon en rendez-vous personnalisé, en coaching, en conseil, en atelier, en stage, pris en charge par l'AFDAS, pris en charge par France Travail. Ça peut se faire aussi en présentiel et en distanciel. Et on est aussi prestataire du fonds de professionnalisation d'audience. Et ce webinaire est aussi organisé en partenariat avec Crew United, qui est une plateforme européenne dédiée à l'audiovisuel, dont nous avons Sonia Osgui aujourd'hui, la représentante pour la partie française. Pour petite info, du fait que vous soyez inscrit à ce webinaire, vous allez recevoir notre newsletter si vous ne les recevez pas déjà. Vous aurez toutes nos infos et on vous invite, en recevant notre newsletter, à personnaliser le pourquoi vous voulez recevoir notre newsletter, parce que vous avez la possibilité maintenant de mettre à jour
Ce
votre
que vous voulez
profil.
recevoir en
Ce que vous voulez recevoir
particulier.
de notre part, ça nous évite de vous envoyer des mails inutiles et c'est autant de gains d'énergie pour la planète. Et par ailleurs, je termine, avant de passer la main à nos invités, je termine sur l'enregistrement de ce webinaire. Donc, il va être enregistré en audio exclusivement. Il sera rediffusé gratuitement sur notre site internet pendant une semaine. Après, il sera intégré dans notre abonnement,
Un
en
bonus.
bonus. Mais, et par ailleurs, vous pourrez toujours le retrouver, et Nadia nous en dira plus, sur le site d'audience. Je ne sais pas où
De
exactement,
la
mais
cellule, de la cellule
de la
d'écoute,
cellule
oui.
VHSS d'écoute, etc. Enfin voilà, tu nous donneras
Oui.
le lien et tout
Il
ça,
sera à
parce
disposition
qu'il
là.
sera à disposition gratuitement, évidemment, sur la cellule mise en place par audience.
C'est ça. Et comme nous sommes peu nombreux, eh bien on va en profiter. Vous pourrez lever la main pour poser vos questions au fur et à mesure à nos deux invités que l'on est ravis de présenter maintenant, qui sont Nadia Bouvard, donc, qui travaille à la cellule, dont elle va nous parler un peu plus précisément tout à l'heure, à Audience, et Jimmy Schumann, qui fait partie du SFA et qui travaille spécifiquement sur ces questions.
Alors, on vous laisse vous présenter,
On va, ouais, voilà, on va vous laisser vous présenter peut-être en
et puis
directement comme ça, on sera sûr que vous allez dire tout ce qu'il faut comme il faut.
qui veut démarrer? Jimmy?
Jimmy? Nadia?
Nadia? Jimmy, il faut que tu mettes ton micro.
Bon, alors j'y vais, mon micro est ouvert.
Allez,
Alors, bonjour à tous. Donc moi, je suis Nadia Bouvard. Je travaille donc chez Audience, vous l'avez compris. Et donc, je suis en charge du pilotage de cette cellule d'écoute et de lutte contre les VHSS dans la culture. Donc voilà, je suis chargée de mission. Et non seulement, donc je pilote cette cellule, mais en plus, je suis aussi sur la prise d'appel de cette cellule. Voilà, j'y reviendrai un petit peu après. Merci beaucoup,
merci.
Jimmy.
Alors, je suis Jimmy Schumann. Pardon, je suis comédien de formation, maintenant plutôt à la retraite, mais avec un peu de travail encore, notamment dans le doublage où je fais un peu de travail de voix encore, mais surtout de l'adaptation et la direction de plateau. Je suis d'origine américaine, mais en France depuis bien plus longtemps que je ne l'étais aux États-Unis. Et je travaille au syndicat français, je suis travailleur bénévole au syndicat français des artistes interprètes, qui est, fait partie de la Confédération générale du travail et aussi est membre fondateur de la Fédération internationale des acteurs, qui regroupe à peu près 70, non, pardon, une centaine de syndicats d'à peu près 70 pays à travers le monde. Qu'on a fondé en 1952, je crois, et on est encore actif là-dedans. Et moi, au SFA, je suis celui ou parmi ceux qui négocient les conventions collectives de l'audiovisuel, notamment. Et dans ce cadre-là, j'ai pas mal travaillé sur la mise en place de certains dispositifs concernant les violences, la lutte contre les violences et harcèlement sexiste et sexuel. Voilà.
Super. Merci pour cette présentation. Et donc, du coup,
Et on va commencer. Est-ce que Jimmy, tu peux dans un premier temps peut-être nous donner quelques définitions de vocabulaire,
oui, qu'on soit tous bien
que
d'accord.
nous parlions tous bien des mêmes choses, parce qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière le harcèlement, derrière les violences sexistes et sexuelles, derrière le viol, derrière le
D'ailleurs,
type d'agression en fait, et qu'on soit tous bien. Oui, sur la même longueur d'onde en termes de définition de vocabulaire.
oui, la différence entre une violence sexiste et une violence sexuelle, déjà,
Ouais,
déjà,
déjà.
on a, voilà. Est-ce qu'on peut avoir
Alors,
ces nuances?
il y a des définitions très précises dans les textes juridiques, et notamment dans le Code du travail et dans le Code pénal. Les définitions se ressemblent, mais ne sont pas tout à fait identiques entre le Code pénal et le Code du travail, parce que surtout le Code du travail parle de la situation du lieu de travail ou du lieu de travail étendu. Tandis que le code pénal parle d'une manière générale des mêmes phénomènes. Le harcèlement est défini comme le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soient portent atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Le Code du travail dit le harcèlement sexuel, aucun salarié ne doit subir des faits, soit de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés, qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc c'est
Il n'y a plus de micro, il n'y a plus de micro. Jimmy, tu as coupé ton micro.
J'ai appuyé
Voilà,
dessus.
ça y est.
C'est parce que j'ai des papiers posés sur le clavier. Pardon.
C'est pour ça, ok, non, pas de problème.
Donc, c'est le harcèlement est défini. Alors, plus intéressant, enfin, plus intéressant, non, différent, ce sont des agissements sexistes. Et le Code du travail définit bien. Il dit, nul ne doit subir d'agissement sexiste défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte, donc objet ou effet, de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Et le code du pénal, le code pénal dit, il est interdit d'imposer. Le code pénal parle d'outrage sexiste et non pas d'agissement sexiste.
Agissement, ouais.
Mais en fait, la définition, c'est pareil.
C'est la même, ouais.
On ne doit pas imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc, c'est à peu près pareil, c'est pas exactement pareil, mais ça donne de la place pour savoir qu'il y a des choses qu'il faut pas faire et qu'on peut être réprimé si on fait ces choses-là. L'agression sexuelle, c'est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, ou commise par un mineur sur un majeur, pardon, sur un mineur par un majeur. Et le code du travail donne pas une définition différente. Voilà. Le code du travail ne donne pas une définition différente. Donc, il y a une chose que j'ai trouvée en regardant plus loin qui me semblait intéressant. C'est une chose qui a été trouvée dans le cadre d'un accord qui date seulement du mois de novembre dans le spectacle vivant privé. C'est, il cite quelque chose de l'Organisation du travail, l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Il dit, le concept de violence au travail n'est pas défini en droit interne, mais il est rappelé que l'Organisation internationale du travail établit que l'expression violence et harcèlement dans le monde du travail s'entend de l'ensemble de comportements et de pratiques qui se produisent à une seule occasion ou de manière répétée, qui ont pour but de causer, cause ou sont susceptibles de causer un dommage d'ordre physique, psychologique, sexuel ou économique, et comprend la violence et le harcèlement fondés sur le genre. Ça, c'est une
Intéressant, hein.
citation de la Convention internationale 190 sur la violence et le harcèlement et qui date de 2019. Donc, ça va, c'est beaucoup plus large et général que ce qui est écrit de manière très spécifique dans notre code du travail et notre code pénal sur lequel sont basés les divers textes dont on va parler, je pense.
Absolument.
Tout à fait.
Est-ce que déjà il y a des réactions ou des questions sur ce qui vient d'être dit?
Ou sur les
Ou sur les
définitions qui viennent d'être
définitions,
données?
est-ce qu'il y a des précisions ou est-ce que tout est clair, Virginie?
Ouais.
Oui, non, tout est très clair. J'aurais bien aimé peut-être avoir comment dire, l'écrit, en fait, parce que j'ai évidemment pas eu le temps de noter. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un lien ou quelque chose? Parce que je cherchais dans tout le code du travail, ça risque d'être un petit peu long.
Ça risque d'être un peu long. Est-ce que, Jimmy, il y aura
Ah bon, quand même,
possibilité
ouais.
de nous envoyer un document ou Nadia, peut-être que vous avez fait
Ou un lien, ouais.
ou un lien ou un endroit où.
Le site de la cellule, nous avons un kit média et tout un tas d'outils, mais j'y reviendrai à la fin de ma présentation,
Super.
où vous avez l'intégralité de ces notions-là qui sont définies sur un format flyer avec l'intégralité des éléments. Donc tout ce que vient de dire Jimmy, vous le retrouverez.
D'accord.
Ok,
Y
super.
compris avec ce qu'il vient de nous dire sur
Avec
l'OIT.
l'Organisation internationale du travail?
Non, pas
Ah,
ce petit
ça,
point-là.
ouais. Ouais, parce que c'est un point extrêmement intéressant, ce que dit l'Organisation
Jimmy,
internationale.
est-ce qu'il y a un lien sur lequel on peut retrouver cette
Il
définition?
faut que tu remettes, oui.
Alors, moi, je l'ai trouvé sur Légifrance, dans la convention collective du spectacle vivant privé, dans l'annexe 1 du nouvel accord du 23 novembre, je sais plus si c'est le 23, mais du mois de novembre 2023, dans le premier article.
C'est incroyable, c'est qu'il faut attendre 2023 pour que ça arrive, et ce qui est formidable, c'est que c'est arrivé. voilà, on peut juste, on va se réjouir des avancées, parce que si on pleure de ce qui ne s'est pas fait, on va repartir déprimé, donc on va surtout se réjouir des avancées et regarder quelles sont les avancées qui a eu lieu. Il y a juste une notion qui m'interpelle, c'est de façon répétée, qui est dans un des textes,
Sur
et
le
notamment,
harcèlement. Le
le
harcèlement,
harcèlement,
pas
et de
assez
façon,
tous.
le truc, c'est que une personne peut se sentir harcelée par un environnement sans être harcelée par une personne, et notamment sur un tournage, quand on arrive à 10 h et qu'on a fini de tourner à 13 h, est-ce que le harcèlement peut pas être montré sur 3 heures de tournage? Pour autant, il peut y avoir
Une ambiance.
une ambiance, mais à ce moment-là, ce sera plus par le sexisme que ça passera, plus que par le harcèlement, du coup, c'est ça. Il faudrait que tu penses à mettre ton micro, Jimmy, si tu veux prendre la parole.
Le texte parle d'actions répétées. Par contre, il dit aussi qu'il y a la notion de situation. Donc, s'il y a un cadre qui est propice pour créer un mauvaise ambiance, une ambiance où la personne se sent en danger ou fragilisée ou discriminée, Je pense que ça peut de toute façon se plaider. En tout cas, ça justifie le fait de soit de se plaindre, soit de faire un signalement véritable. Mais la notion même de signalement, on n'a pas encore parlé. Je pense que Nadia va commencer à en discuter.
Absolument, ouais.
Elle va dire ce qu'elle entend.
Après, juste pour précision aussi sur la notion de répétition sur le harcèlement, on parle aussi de harcèlement sexuel quand un fait s'est produit une seule fois, mais
Oui.
qu'il a été l'objet de plusieurs personnes. À ce moment-là, on peut
D'accord.
déjà ca caractériser le harcèlement sexuel. Donc
Yes.
effectivement, il y a des petites nuances qui peuvent amener malgré tout à une qualification juridique de harcèlement sexuel.
Et
Je trouve que c'est
c'est.
très bien indiqué dans l'Organisation internationale du travail, la définition, elle est très claire là-dessus. C'est agréable.
Et c'est la précision que je voulais avoir, parce qu'effectivement. Le harcèlement n'est pas lié, oui, la notion de répétition n'est pas liée juste à une personne, est liée à, ça peut être à un groupe de personnes, effectivement.
Absolument.
Marine, tu voulais poser une question
Ou tu voulais
ou...
juste,
Bonjour tout le monde, désolée du retard.
c'est pas grave.
Je suis Marine Pédébos, je suis chargée de figuration et casting petit rôle pour précision. Oui, mais Nadia Bouvard vient de le préciser, effectivement, le harcèlement sexuel, il n'y a pas de répétition pour le harcèlement sexuel, c'est il suffit d'une fois, à la différence du harcèlement. Voilà, c'était juste cette précision,
Ouais.
mais Nadia Bouvard l'a apportée, donc voilà.
Super.
Effectivement, je rejoins ce que tu disais, Christophe, la difficulté... Sur un plateau, quand on reste très peu de temps, enfin peut-être que vous allez en parler dans le cadre du travail. Effectivement, le fait de rester très peu de temps, ça veut dire qu'il faut une réactivité, ça veut dire qu'il faut des référents qui soient là, ça veut dire des personnes qui soient des relais, puisque dans le cadre du travail, il faut que la personne soit toujours sous contrat. En tout cas, une des deux, qui soit toujours sous contrat.
Alors
On
justement,
te...
parlons du
Ouais.
signalement, comment on fait pour rebondir sur ce que disait Jimmy, sur ce que disait Jimmy, comment on fait justement, c'est important de le signaler très vite, d'être réactif, ce que disait aussi Marine, et les signalements, comment ça se passe pour vous, quels sont les qu'est-ce qui est mis en place, etc., etc. Enfin
Qu'est-ce qu'on
voilà,
peut faire
qu'est-ce qu'on peut faire
quand on se retrouve dans cette situation,
quand on
qu'on
constate auprès des
constate...
victimes,
Alors,
qu'est-ce qu'on
pour parler brièvement du signalement. Le signalement, il peut être fait que l'on soit victime ou témoin. Donc ça, déjà, c'est quelque chose d'important à dire, puisque le rôle des témoins dans les dénonciations et dans cette volonté de faire cesser les situations, c'est un rôle qui est important. Et parfois, les témoins ne sont pas toujours à l'aise à l'idée de s'exprimer. Donc c'est important de dire qu'ils peuvent le faire et qu'ils sont protégés quand ils le font. Maintenant, les interlocuteurs, quand on a besoin de faire un signalement. Alors, en situation, il y a différentes options. La première option, dans le meilleur des mondes, quand tout se passe bien, il y a un référent harcèlement. Maintenant, le référent harcèlement, on sait qu'il est obligatoire à partir de 50 salariés ou 50 ETP, si on est précis, il me semble. Donc, ça n'est pas toujours le cas dans les très petites entreprises qui, fondamentalement, représentent la grande majorité des entreprises de la culture. Mais quand il est là, c'est un bon interlocuteur parce qu'il est sur place, il a été formé et il a toute capacité à aller faire ce signalement auprès de la hiérarchie. Donc ça, c'est un interlocuteur. Ensuite, alors je ne vais pas parler de la cellule d'écoute en matière de signalement, parce que la cellule d'écoute a la vocation à apporter un soutien et un conseil à titre individuel pour amener effectivement... peut-être une action en justice, mais avant tout, si on parle de signalement en premier lieu, il doit se faire en interne de l'entreprise. Donc, le référent VHSS. Ensuite, la voie hiérarchique, quand la situation le permet, quand les conditions le permettent, c'est comme ça me paraît quand même important. Après, quand on doit signaler quelqu'un qui fait partie du cadre de direction, bon, bah là, c'est tout de suite un petit peu compliqué. Mais ça reste une option. Ensuite, on a les syndicats qui sont quand même très très au fait des situations, qui savent prendre en charge et accompagner les situations quand il y en a. Au passage, il y a quand même des accords de branche qui ont été signés avec les partenaires sociaux qui cadrent bien tout le processus du signalement, etc. Donc c'est un bon interlocuteur aussi. Après, on peut aussi faire un signalement écrit si on veut formaliser les choses, et dans ce cas, on va s'adresser au procureur de la République. Voilà. Donc il y a tout ce cheminement pour le signalement. Puis après, donc il y a le signalement au premier degré, et puis après, il y a le dépôt de plainte.
au commissariat. Donc là aussi, c'est un autre interlocuteur. Tout dépend où est-ce qu'on se situe dans la situation et dans le niveau de réaction qu'on veut y donner sur le moment. Parce qu'en fonction de la gravité des faits, ce n'est pas toujours facile de pouvoir être réactif et tout de suite faire les choses. Enfin, on a besoin déjà d'un temps pour comprendre ce qui vient d'être vécu, etc. Donc la réponse, elle n'est pas précise, mais en tous les cas, s'il faut donner des interlocutions, on a le référent VHSS, on a les ressources humaines, enfin la hiérarchie en fonction du pardon, l'environnement qu'on a. On a le procureur de la République, on a donc les syndicats.
Mais
Voilà.
sur
Et le
un,
commissariat.
très concrètement, sur un plateau de tournage, quand il y a une situation vécue
Subi.
et subie, comment concrètement un acteur ou une actrice qui subit ça, il fait quoi, techniquement? Alors, soyons très
C'est ça,
concrets.
c'est ce que je dis.
Ben
En
oui, mais là,
pratique.
non, parce que s'il n'y a pas de référent, parce qu'on est sur un petit tournage, si on est sur un tournage d'un court-métrage, un film institutionnel, on sait qu'il y a plein de tournages où il n'y a pas forcément 50 techniciens. Et où il y a, est-ce qu'il y a un référent systématique? Qu'est-ce qui se passe après concrètement? Parce que si c'est un réalisateur ou un assistant qui harcèle ou qui a un comportement violent pour un acteur ou un figurant, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est le figurant qui se fait virer? Concrètement, il se passe quoi? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, les réponses, elles sont jamais aussi simples que ça, parce que les
J'imagine
situations,
bien.
elles sont très différentes. Maintenant, ce qui est certain, c'est que l'employeur, il a une responsabilité qui est de faire cesser, de protéger et ensuite de sanctionner s'il y a lieu. Donc, si on est en situation pratico-pratique, il n'y a pas de référent, je suis seule, le premier réflexe que je dois avoir, c'est de le signaler à la hiérarchie de sorte que je puisse être protégée, qu'il y ait une mise à l'écart et qu'il y ait une action qui soit menée. Voilà. S'il y a une première chose à faire, c'est ça. Après, je ferai quand même le lien avec la cellule d'écoute parce que nous appeler et partager l'expérience qui est vécue, c'est pouvoir être orienté vers un avocat spécialisé du sujet et qui va lui aussi donner des appuis et des conseils pour pouvoir agir en situation.
Très bien. C'est très concret.
Jimmy, je crois vouloir
Je
rajouter
dirais
quelque chose.
qu'une des premières choses à faire, c'est éventuellement d'appeler Nadia. Parce que la cellule d'écoute est en partie là pour ça. C'est pour écouter la personne et donner des orientations sur ce que la personne peut faire ensuite. Ensuite,
Exactement.
il y a les associations, il y a les syndicats, il y a les CCHCT. Puisqu'on est dans le cinéma et la télévision, on ne parlait pas du spectacle vivant, dans le cinéma et la télévision, on a deux comités centraux d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Et ils travaillent beaucoup sur cette question et sont aptes à donner des indications précises ce qu'il faut faire et d'aider l'employeur qui est celui qui est responsable ou celle qui est responsable, les outils nécessaire pour recevoir le signalement, pour diligenter l'enquête nécessaire et de tirer éventuellement des conclusions. Et comme a dit Nadia, il ne faut pas oublier qu'à chaque moment de ce processus, la personne est tout à fait légitime à saisir la justice.
Bien sûr.
Merci Jimmy, j'avais oublié les CCHS, c'était honte à moi. Absolument.
Honte, honte. Oh là. Valérie a une question. T'es pas obligé de mettre la caméra, hein, si tu veux pas.
Je suis encore en pyjama. Non, moi, c'était juste pour dire que moi, sur mon tournage, la personne problématique, c'était la personne qui était la référente anti-harcèlement sur les
Ah.
courts-métrages. Donc, moi, j'ai eu plusieurs fois ce truc-là. Enfin, par rapport à des amis sur les courts-métrages, en tout cas, on nomme généralement des personnes responsables anti-harcèlement. C'est le producteur qui choisit, mais c'est des personnes qui sont absolument pas formées. Enfin voilà, j'ai une amie, moi, c'était une seconde assistante qui était très jeune et qui était un peu débordée. Et voilà, elle n'a pas senti qu'elle pouvait se sentir. Voilà, elle a géré son problème toute seule. Et moi, c'était la directrice de production. Donc en fait, en plus, quelqu'un qui a dû, voilà. Et donc dire que c'est aussi, je pense, très enfin, compliqué dans ce cas-là. Moi, c'est tout un process un peu difficile parce que moi, j'étais réalisatrice sur ce film et c'est la directrice de production qui a harcelé ma première assistante en lui envoyant des textos très menaçants au point qu'elle a pas fait mon tournage. Finalement, elle s'est fait remplacer 4 jours avant. Et moi, je me suis retrouvée, du coup, en tant que témoin, extrêmement démuni parce que à le dire au producteur, mais qui n'a pas voulu virer la dire prod pour des problèmes de voilà. Et donc, ouais, mais cette histoire me trotte encore. Hein, c'était il y a un an et demi, et c'est voilà. Donc c'est de dire, c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'on manque de choses très concrètes à faire dans ces cas-là en fait, parce que je sais que ma seconde est toujours encore en ma première assistante pardon, est toujours sous le coup de cette histoire et que voilà, on a résultat, on n'a rien fait. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'à posteriori, on peut faire quelque chose à part voilà.
Alors, Jimmy. Si elle avait des SMS et tout ça, justement, Jimmy, voilà, Nadia, oui. J'imagine que oui, elle mais est-ce que vous pourriez réagir sur un cas d'école très précis et très concret? Nadia,
Jimmy, il avait levé la main avant.
Ouais, ouais.
Alors, non, mais moi, ce n'était pas pour répondre à cette question-là, c'était pour
parler.
D'accord, d'accord.
Vas-y d'abord.
Alors, déjà, juste un point de détail, il s'agissait de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral?
Harcèlement moral. Enfin, harcèlement, menace de violence.
Elle lui a dit. Mais on n'est pas dans le cas du harcèlement sexuel, du coup.
Non, c'est ça.
D'accord.
C'était l'ambiguïté. C'est, elle a dit qu'elle allait régler leurs différends au point sur le tournage.
Oh oui, la vache.
Ouf. De toute façon, il y a une menace.
T'as pas l'ambiance, quoi.
par rapport à certaines choses que disait Jimmy, je trouvais que ça rentrait là-dedans parce qu'en gros, et elle a reçu un message après qui disait qu'en gros, elle a tout fait pour la forcer à quitter le tournage et qu'elle a été satisfaite d'avoir réussi à ça.
Qui est quand même oui, donc ça ressemble bien évidemment à du harcèlement moral. Après, du coup, l'interlocution, elle est un peu différente puisque la cellule d'écoute, elle est vraiment spécifiquement dédiée au harcèlement sexuel et aux violences sexistes et sexuelles. Donc, ça sort de ce cadre-là. Néanmoins, compte tenu du contexte-là qui est un petit peu particulier, pour moi, il est important de délocaliser l'intervention. Quand il y a trop de personnes qui sont parties prenantes et qui ont des hautes fonctions dans l'environnement de travail, c'est pas possible d'aller les interpeller. Donc, faut délocaliser. Donc, effectivement, il y a les CHSCT, on l'a dit, il y a les syndicats, mais c'est plus quelque chose qui peut se résoudre en interne,
En
surtout quand
interne.
le référent est celui qui harcèle.
Juste pour ajouter sur le harcèlement moral, ça peut tout à fait être traité après coup. Le but initial, c'est de faire cesser le trouble et la pression. Mais ensuite, on a eu des cas souvent, enfin trop souvent, disons, de harcèlement moral sont traités ensuite en conseil de prud'homme. Et on peut avoir des pénalités financières auprès de l'employeur pour la personne qui a subi. Une fois prouvé qu'il y a eu un harcèlement moral. C'est un concept qui a été mis en place dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, par notre ancien avocat d'ailleurs, qui était un grand avocat communiste à l'époque, qui est mort depuis bien longtemps maintenant.
Et là, avec des textos, les preuves sont là, hein. C'est très clair.
Ouais.
Oui, faut les
Pardon,
garder, hein. Là,
vas-y.
vraiment.
Je voulais parler du fait qu'il y a des gens qui ne sont pas très bien formés, peut-être encore comme référents. Il y a quand même des choses en cours pour essayer d'améliorer la situation de manière générale. Il y a, comme quelqu'un a dit dans le chat, il y a des formations à l'AFTAS qui ne bouffent pas votre carence d'ailleurs, qui sont, il y a des formations d'un jour, 2 jours, 3 jours, 3 jours, c'est pour devenir vraiment ce qu'ils appellent un ambassadeur ou un référent selon les locutions. Les productions peuvent envoyer des gens. Il faut avoir normalement. Les 43 cachets, le nombre de cachets nécessaires pour bénéficier d'une formation AFTAS, mais les productions peuvent aussi payer la formation pour leur personnel s'ils n'ont pas le nombre de cachets nécessaires. Par ailleurs, et là, c'est pas pour devenir référent, mais vous savez déjà qu'il y a la conditionnalité des aides qui font que tous les producteurs doivent suivre une toute petite formation de une sensibilisation, disons, de 3 heures au CNC pour bénéficier des aides. Mais très rapidement, cette année du moins, il va être mis en place une formation sensibilisation pour tout le personnel d'une équipe qui sera normalement. Alors, on a fait une réunion pour l'instant. La deuxième réunion est prévue pour le 8 mars, qui est une bonne date pour faire ça, où on décide, normalement, il y aura une formation de 3 heures, 2 heures et demie ou 3 heures en distanciel pour tout le monde et obligatoire pour tout le monde. Et une deuxième formation, pour l'instant prévue en présentiel pour toute l'équipe au début du tournage. Alors ça pose énormément de questions et de problèmes, surtout cette deuxième partie, parce que tout le monde n'est pas là au premier jour de tournage, notamment les artistes. Si on est en présentiel, c'est un lieu de travail. Et donc, il faut trouver les sous pour payer ça. Et bon, pour une grosse production, ça peut coûter très cher. Donc, tout ça, c'est en discussion actuellement entre le CNC et les organisations professionnelles.
Petit mémo pour celles et ceux qui pourraient écouter ce replay. On est le 21 février 2023, donc à suivre en fonction du moment où vous écouterez ce replay, parce que peut-être qu'il y aura eu des nouveautés, puisque c'est courant 2024 qu'il devrait y avoir des nouveautés. Il y avait Virginie qui avait visiblement une question. Nadia, tu voulais intervenir sur ce que vous venez de dire, Jimmy, ou non?
Juste après Virginie.
Ok.
Moi, j'avais, merci beaucoup. Moi, j'avais une question en fait par rapport à ce qui a été dit avant, donc la délocalisation de la problématique. Est-ce que vous connaissez le délai de prescription par rapport à bah, que ce soit harcèlement moral, entre guillemets, simplement, enfin, c'est vraiment des gros guillemets, et enfin, est-ce qu'il y a différents délais de prescription dans les différents cas de figure?
Oui.
Tu peux répondre à
Alors,
ça.
oui, il y a des délais de prescription, mais comme ça n'est pas mon métier particulièrement le juridique, je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, je pense qu'ici, ma meilleure réponse est de dire qu'il y a un certain temps, hein, je ne sais plus exactement, mais il y a du temps. Le délai de prescription n'est pas si court que
Pas si
ça.
court, hein.
Mais ma meilleure réponse ici, pour reprendre ce que disait Jimmy tout à l'heure, peut-être, c'est que en situation, quelle que soit la question, vous appelez la cellule d'écoute et vous serez mis en relation avec un avocat qui, lui, pour le coup, aura les réponses précises à vous apporter. En termes de délai de prescription, en termes tout à l'heure, je voulais y revenir, je profite, pardonnez-moi, Ophélie, 30 secondes, je profite justement parce que tout à l'heure, on a parlé de la charge de la preuve, qui est quand même un élément important pour les suites qu'on peut donner à un signalement. On parlait des SMS, est-ce que c'est recevable ou pas? Souvent, à tort, on croit que non, alors qu'en réalité, bah, aujourd'hui, il y a quand même eu beaucoup de jurisprudence qui permettent d'accepter les messages écrits sur les téléphones, etc., notamment sur le harcèlement sexuel. Donc, voilà, c'est hyper important de savoir que quand on a le moindre doute, la moindre question, et surtout quand on est démuni, parce que c'est quand même quelque chose qui ressort beaucoup chez les victimes, de même chez les témoins, mais surtout chez les victimes, ce sentiment d'être isolé, à l'abandon, je ne sais pas en fait finalement qui appeler, ce que je vis, qui va me croire, je le vis seul, j'ai pas de témoin, comment prouver, etc. Tout ça, c'est vraiment l'objet de cette cellule qui a été créée. C'était pour pallier à tous ces doutes qui représentaient en fait un frein à la libération de la parole. Donc quand vous appelez la cellule, vous avez, et d'ailleurs, juste après Ophélie, peut-être que je vais présenter la cellule parce que ça va peut-être
Ouais,
donner aussi quelques
parfait,
éléments de
parfait,
réponse
absolument,
et
absolument, ça.
anticiper. Mais voilà, vous appelez la cellule et vous allez avoir non seulement le soutien psychologique qui va vous permettre d'affronter la situation du mieux possible, et puis vous allez avoir le conseil juridique qui est évidemment très très précieux dans ces situations-là pour s'orienter et savoir comment agir et les conséquences, etc.
Merci beaucoup.
Merci pour
Et dans
cette réponse.
le chat,
Oui.
merci Marine qui a mis le lien vers les CHSCT Cinéma et vers les violences sexuelles culture. Ophélie.
Bonjour à toutes. Donc je m'appelle Ophélie Koering, je suis comédienne et scénariste et réalisatrice. Moi, je voulais juste simplement revenir par rapport aux formations effectivement qui sont dispensées par l'AFDAS et à la position de référent ou référente sur les plateaux ou dans le spectacle vivant. On s'était posé la question parce que c'est vrai que quand il y a par exemple un signalement de d'une agression notamment, c'est vrai que ça entraîne a priori une enquête interne par exemple qui nécessite du temps. C'est vrai que si vous êtes sur un plateau de tournage et que je dis n'importe quoi, l'une des référentes ou référents c'est la seconde assistante réalisatrice par exemple, ou quelqu'un qui est en côté administratif, donc pas sur le plateau peut-être. La personne très concrètement n'a pas le temps en fait de mener cette enquête interne. Et donc on s'était dit que ce serait vachement bien, alors peut-être ça existe déjà, mais en tout cas moi j'en ai pas eu vent, qui est en fait un listing fait de tous les personnes formées référents, référentes, pour pouvoir en fait, et qui par exemple on pourrait mettre à jour ces personnes-là qui ne sont, enfin quand elles ne travaillent pas sur un projet, et pourraient être appelées voilà, s'il y avait un site, enfin voilà, pour pouvoir intervenir, d'abord parce que ça permettrait peut-être d'avoir un peu de recul, c'est-à-dire de pas être forcément dans le projet, de pas avoir maille à partir avec toutes les personnes impliquées, et pouvoir recueillir la parole et mener tranquillement avec le temps qu'il faut l'enquête interne et puis tout l'accompagnement de la personne, voilà, parce que c'est pas toujours possible en fait sur les
plateaux, ouais. Oui, exactement ce que Marine fait ce commentaire, les référents et référentes VHSS sur les plateaux ont toutes une double casquette et font leur métier plus le
bah
métier.
Oui, je sais bien.
Le rôle de référent.
Ce qui n'est peut-être pas la
mais
bonne.
Le pas fait la est que
c'est pas possible concrètement.
Il y a plein de moments où c'est pas du tout possible en fait.
Bah, la meilleure situation serait que ce soit quelqu'un d'indépendant qui soit là, quoi. En plus, ce qui veut dire un budget supplémentaire pour une prod.
Oui, voilà, ou quelqu'un qui puisse être appelé, enfin qui est pas là en plus tous les jours et qui ne fait qui n'a que ça, parce qu'évidemment ça, bon, il y a peu de chances pour que ça arrive, qu'il y ait un salaire débloqué mais en revanche comme il y a la cellule d'écoute, mais ce serait la même chose avec des référents joignables qui ne sont pas en activité à ce moment-là, qui se signalent comme n'étant pas en activité et donc en capacité de donner de leur temps pour recueillir la parole ou faire
par rapport
aux enquêtes en fait. C'est les enquêtes qui prennent le temps.
Ce sont des choses qui nous ont été remontées depuis plusieurs mois déjà et qui sont en réflexion. Donc on a conscience de ces choses-là. Ce sont des éléments et des complications qui ont été remonter aussi aux partenaires sociaux avec lesquels on travaille, avec le ministère. Donc il y a une réflexion qui est en cours pour répondre à ces sujets-là. Bon, après, comme tout, ça prend un petit peu du temps en termes de structuration et tout, c'est quand même complexe, mais je sais que du côté du CNM, donc plutôt sur le secteur de la musique, il y a des réflexions sur un réseau de référents VHSS, par exemple. Il y a des choses qui sont en train de se créer, et le secteur associatif est aussi impliqué là-dessus. Et effectivement, je pense qu'il y a ce besoin pour les référents qui sont, enfin franchement, l'époque c'est pas facile. Hein. Déjà, elles ont des temps normalement dédiés à ça. Je suis pas sûre qu'elles puissent réellement les utiliser. Leurs formations, elles sont très très bien faites, mais ça reste quand même court. Et quand on est face aux situations, bah c'est difficile. Et c'est aussi, je le rappelle, pour ça que la cellule, elle est ouverte aux référents VHSS pour qu'ils puissent aussi venir prendre conseil chez nous. Donc voilà, il y a des choses qui sont en réflexion dessus parce que on a bien conscience de ces difficultés-là. Et ensuite, pour faire un parallèle avec l'enquête interne, donc je suis complètement d'accord sur les toutes petites structures, c'est quand même très difficile de soi-même mener l'enquête interne. Alors, ça relève du rôle de l'employeur, il n'y a pas de sujet dessus, c'est une obligation. Pour autant, dans l'application, oui, c'est très difficile à mettre en œuvre. Et donc, il y a des structures qui accompagnent l'enquête interne. Donc c'est-à-dire qu'elle, avec l'employeur, donc en binôme si on peut dire, elle mène l'enquête interne et ça fonctionne bien. Mais l'employeur peut aussi confier l'enquête interne à quelqu'un d'extérieur pour le faire. Donc c'est bien parce que c'est un métier, il faut quand même des compétences et des connaissances, etc. Et puis ça dégage toute accusation éventuelle de manque de d'objectivité sur l'enquête. Donc ça existe, c'est pas encore très développé, peu de structures le proposent, et puis surtout ça représente un coût. Est-ce que toutes les entreprises peuvent se le permettre? Je n'en suis pas certaine. Donc là encore, il y a une réflexion pour savoir comment est-ce que il est possible d'aider l'employeur à jouer son rôle. Voilà, puisque effectivement, s'il n'y a pas d'enquête interne, et on rappelle que c'est obligatoire, mais s'il n'y a pas d'enquête interne, ben, il n'y a pas de sanction éventuelle derrière. Donc c'est impératif. Donc ma réponse, je ne sais pas si elle est très complète, mais elle est celle-ci. Ça nous a été remonté, et il y a des choses qui sont en cours de réflexion, mais ça prend un petit peu de temps.
Et là, tu parlais de relais. Pardon, Marine parlait de relais. Tu parlais de structures extérieures qui pourraient le faire. Je pense que vous parlez de la même chose. On a une liste. On a un endroit où les contacter. Ces relais. On sait qui ils sont. Ils sont identifiés quelque part.
Alors, non, parce que bah, après, on en a quand même connaissance de trois au sein de la cellule, mais on n'est pas en capacité à faire une liste et à faire un relais pour deux raisons. C'est que, un, on ne peut pas s'engager pour la qualité de l'enquête interne parce qu'on ne les connaît pas, ils ne sont pas agréés en matière d'enquête interne, parce qu'ils sont agréés sur les formations VHSS, etc. Sur l'enquête interne, en tout cas, pour ce que j'en sais, il n'y a pas d'agrément sur le sujet pour mener l'enquête. Donc c'est difficile de s'engager là, même si les échos, a priori, montrent que le travail il a plutôt été bien fait, on ne peut pas y aller. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est quand même, il y a une notion aussi un peu concurrentielle. Enfin, la cellule n'a pas du tout légitimité à aller créer un référentiel de structure qui propose ces enquêtes internes.
Ouais, ouais.
C'est pas notre rôle. Nous, je
D'accord.
rappelle, cellule d'écoute. Voilà.
Oui, bien sûr, bien sûr.
On sait que ça existe, on peut
Rôle,
passer
mais.
l'information parce que c'est possible de les trouver sur Google. Voilà.
Ok.
Il y a
Ok.
un indice, ça existe. Ça coûte un petit peu d'argent, c'est bien fait, il y a des structures, mais parfois quand c'est nécessaire et que c'est un bon appui, on peut trouver ces structures. Mais la cellule ne peut pas s'engager à
Bien
dire
sûr.
aller chez un
Ouais,
tel ou
c'est
aller voir
clair.
un tel.
Bien sûr. Mais la question est, enfin, je pense, ça fait partie des réflexions. C'est comment est-ce qu'effectivement une enquête interne peut être menée, soit par quelqu'un d'extérieur, soit par une liste, comme proposait Ophélie, ou par une liste de relais. Peut-être que ça puisse rentrer dans les financements du CNC ou dans les frais généraux d'une entreprise de production qui, à un moment donné, bah, les calcule sur un tournage. Et un tournage où il n'y a pas d'enquête, où il n'y a pas de problème, bah, tant mieux, c'est de l'argent qui n'est pas dépensé. Et puis un tournage où il y a des problèmes, bah, c'est l'argent qui est dépensé. Mais c'est peut-être qu'il y a une réserve à faire, peut-être, mais ça arrivera certainement, puisque le CNC est quand même très au taquet, les syndicats sont très au taquet de choses, et il se passe des choses, donc ça va
Ça va
certainement.
bouger.
Ça va bouger, oui, il y a une base là pour l'instant, elle est ce qu'elle est, on pourrait la critiquer parce que les 3 heures de formation, ça paraît court et on se dit que c'est pas assez, mais c'est une base sur laquelle maintenant on peut travailler. Et d'ailleurs, tu le dis, Nadia, et Jimmy l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se font et voilà, il y a tout le contexte pour travailler dessus. Il y
Marine,
a Marine qui voulait
ajouter quelque
ajouter quelque
chose.
chose, et il y a Jimmy aussi qui voulait.
Ouais.
Ah oui, je rejoins Nadia entre autres. Alors peut-être précision quand on parle mais peut-être Jimmy va bien préciser quand on parle d'enquête interne, c'est dans le cadre du travail. Les autres possibilités en dehors du cadre du travail existent. Ça dépend de la gravité, ça dépend du timing, ça dépend de plein de choses. Mais enfin, je pense que tout ceci va être précisé aussi, sinon dans les références que j'ai mis aussi dans le chat. C'est un peu lourd, il y a plein de choses, mais enfin, n'hésitez pas à lire parce que c'est bien précisé. Les enquêtes internes, effectivement, n'importe qui ne peut pas les mener et les faire. Mais ça veut dire qu'avant d'arriver là, il faut avoir pu faire un signalement, il faut avoir pu avoir des relais, notamment au plateau. Ça veut dire une vraie réactivité, etc. Donc, les référents, je le précisais parce que pour l'instant, les référents VHSS donc ont une double casquette, font leur métier plus son référent VHSS. Donc c'est évidemment complexe. Faut, de mon point de vue, être présent au plateau pour être, en tout cas quand c'est au moment du tournage, parce qu'il y a toute la prépa aussi, il faut pouvoir être présent pour parce que c'est difficile en fait parfois quand il se passe quelque chose de téléphoner en fait ou même d'appeler un syndicat, c'est difficile parce que ça veut dire qu'il faut se rendre compte, il faut avoir réussi à nommer, il faut avoir réussi à comprendre ce qui s'est passé, il faut avoir réussi à l'accepter, il faut faire la démarche d'aller vers quelqu'un. Tout ça c'est quand même difficile dans un temps très court. Donc il faut quand même avoir des, quand on a des personnes présentes physiquement au plateau, c'est quand même de mon point de vue mieux. Petite information aussi, moi je travaille beaucoup avec des productions, des projets anglo-saxons. Ça fait très longtemps, il y a un petit décalage. Ils sont un petit peu plus en avance. Ils ont mis en place notamment dès le début en amont pour tout le monde, des questionnaires, des quiz qui sont là pour tout le monde. Ça aide un petit peu à appeler un chat un chat. C'est plutôt pas mal. Voilà, en tout cas pour effectivement l'enquête, n'hésitez pas à appeler, comme disait Nadia et Jimmy, à appeler les syndicats, les CHSCT qui sont là pour ça, la cellule d'écoute. Je rappelle encore une fois, on est dans le cadre du travail, l'employeur a une obligation de sécurité pour tous ses employés. Donc on ne le dit pas assez de mon point de vue, c'est son obligation en fait. Donc dès l'instant où vous êtes embauché, il doit prévenir, comme l'a dit Nadia, et si problème, il doit en assurer le suivi. Donc, selon la gravité, l'enquête, il y aura enquête ou pas, s'il y a signalement, parce qu'effectivement, on peut faire une enquête s'il n'y a pas de signalement. Témoin ou victime, hein, d'ailleurs, donc voilà, hein, écrit ou oral, hein, par ailleurs, donc ça peut aussi être à l'oral. Ça peut être anonyme, ça peut être, voilà, donc je pense que c'est des choses qui sont importantes à préciser pour aider, faciliter, et voilà, effectivement, il y a peut-être pas de liste, mais l'employeur, s'il a une formation, et puis s'il respecte ses obligations, et je pense que Jimmy, Nadia iront dans mon sens, il peut très facilement trouver, les personnes qui vont s'occuper des enquêtes internes s'il n'a pas le temps ni les
Alors,
moyens. Voilà.
on va peut-être donner la parole à Nadia, enfin à Jimmy avant parce qu'il a levé la main, mais ensuite à Nadia qu'elle nous présente quand même la cellule parce que la pauvre, elle n'a toujours pas eu
On sait toujours pas.
Juste pour rajouter, pour d'abord confirmer que les réflexions sont tellement en cours que la semaine prochaine, nous avons une réunion des deux CCHCT ensemble pour essayer de mieux définir le périmètre d'activité et d'intervention des CCHCT en matière de VHSS, parce que on a été les CCHCT sont paritaires. Il y a les associations des employeurs et les syndicats. Il y a par ailleurs dans chacun une ou un délégué permanent qui est là pour assurer le suivi. On a été entraîné parfois dans des situations très compliquées à gérer. Et où nos statuts, où notre règlement interne n'est pas complètement adapté. Et il faut commencer vraiment comme on l'a été, on ne sait pas vraiment jusqu'où on peut aller. Donc, on va mieux définir ça. On a déjà commencé à réfléchir. Mais là, la semaine prochaine, on fait une réunion commune des deux. Deuxièmement, sur les référents notamment, mais sur autre chose aussi, il y a des discussions aussi au niveau des négociations collectives entre les organisations d'employeurs et les syndicats pour essayer de mieux définir le statut de ces référents. Parce que de quelle protection bénéficient-ils? Ce ne sont pas des délégués syndicaux. De quelle éventuelle rémunération? Parce que pour l'instant, il n'y a pas. Est-ce que c'est un double casquette, comme quelqu'un a dit, ou est-ce qu'il faut avoir des personnes spécifiques payées pour ça qui viennent sur plusieurs tournages ou sur un tournage? Il y a aussi des réflexions plutôt menées par les syndicats, les associations, par les collectifs comme 50-50, les autres, pour savoir s'il faut une plateforme, comme on a dit, de référent qu'on peut appeler au cas où des gens qui peuvent mener des enquêtes aussi. Donc tout ça, c'est en réflexion, mais une réflexion active. Hein. Ce n'est pas des trucs qui sont mis à un comité Tédule pour beaucoup plus tard. C'est à chaque fois, ce sont des sujets qui reviennent et qui sont devenus très chronophages, là où il y a d'autres sujets aussi à traiter dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma. Mais c'est prioritaire, très, très prioritaire. On va sans doute le voir lors du César vendredi soir.
C'est clair.
Ça va être la belle surprise, espérons-le.
Merci beaucoup, Jimmy.
Merci.
Du coup, Nadia, on te donne la parole ce
Vas-y,
soir
présente-nous cette
pour nous
cellule.
présenter la cellule, le fonctionnement et
Le
un peu
numéro, le mail, tout, on
le
veut tout savoir.
périmètre d'action.
Alors, je vais essayer de vous partager mon écran. Alors,
Alors, attends,
attends,
ne
on
bouge
va te
pas.
donner la main. On
Non,
va te
non,
donner la main.
c'est dans
Il me
la
faut la main.
bulle.
OK.
Tac, option de lancer, plusieurs, voilà. Tu dois pouvoir partager maintenant.
OK.
Je te laisse partager l'écran.
Tac.
Est-ce que... Yes, ça marche.
Ça marche
Super.
chez vous?
Ouais,
Ouais,
on
très
est bon.
bien. OK, super. Alors, tac. Pardon, hein. J'essaie de déplacer mes petites vignettes. Pardonnez-moi 30 secondes.
Parce que nous, elles n'apparaissent pas, mais il y a des fois, c'est les vignettes.
Ah, elles n'apparaissent pas chez vous?
Non, les
Non.
vignettes sur Zoom, elles n'apparaissent pas. Non. Les vignettes Zoom n'apparaissent pas. Nous, on a bien tout, tout va bien. On voit tout là.
On voit tout. OK, et ben alors j'y vais. Alors, donc, cette cellule, donc on en parle beaucoup depuis tout à l'heure, elle existe depuis 2020. Évidemment, sa création, donc elle fait écho aux premiers phénomènes de hashtags qui sont sortis, hashtag MeToo, balance ton porc, etc., à partir de 2017 à peu près, quand il y a eu les plus gros scandales dans le secteur du cinéma au départ. Donc cette cellule, finalement, c'est le fruit de la réaction des partenaires sociaux, la FESAC et les organisations syndicales, qui ont donc voulu apporter un élément de réponse pour les victimes qui subissaient ces situations de VHSS. Donc elles ont sollicité le ministère de la Culture, évidemment, pour pouvoir les accompagner sur cette démarche. Et cette cellule d'écoute donc est née en juin 2020. Elle a été confiée donc pour sa gestion opérationnelle à Audience. Et donc, évidemment, dans cette logique de libération de la parole, elle se veut évidemment complètement gratuite, anonyme, et tout ce qui s'y dit est absolument confidentiel. Et tout à l'heure, justement, on disait à quel point il était difficile en situation de pouvoir s'exprimer parce qu'il fallait déjà comprendre ce qu'on était en train de vivre, etc. En ça, la cellule, c'est quand même quelque chose de bénéfique, on le voit, parce que si c'est encore compliqué de s'exprimer en face à face à quelqu'un, le faire par téléphone de manière anonyme, ça accompagne beaucoup plus facilement la parole. Donc, elle a été ouverte d'abord au spectacle vivant et au spectacle enregistré, et puis au fur et à mesure, évidemment, elle s'est élargie puisque l'objectif, c'est de pouvoir aider l'intégralité des professionnels du secteur de la culture. Donc aujourd'hui, elle est élargie au secteur du jeu vidéo depuis 2021, aux arts visuels et artistes auteurs depuis 2022, et donc plus récemment, en 2023, aux espaces de loisirs et au secteur de l'édition. Donc voilà, vous avez tous nos partenaires, donc les partenaires historiques et puis les différents syndicats qui nous ont rejoints et qui nous aident au quotidien à diffuser l'information de l'existence de cette cellule. Évidemment, on y retrouve le ministère et puis ces centres nationaux, hein, donc le CND, le CNC, le CNM et le CNR. Alors, donc, pour parler simplement et clairement, elle s'adresse à tous les salariés, qu'ils soient permanents, intermittents ou auteurs. Que vous soyez victime, témoin ou référent VHSS, la conditionnalité de notre apport, de notre champ d'intervention, c'est que il s'agisse d'une situation de VHSS qui se soit déroulée en milieu professionnel. Ça, c'est important. On est joignable donc du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h, donc sur le numéro qui est ici, mais que je vais dire à l'oral, 01 87 20 30 90. Nous avons une adresse mail également où nous joindre, violence au pluriel, tiré du 6, sexuel au pluriel, tiré du 6, culture, @audience.org. Puis nous avons un site internet, violence au pluriel toujours, tiré du 6, sexuel au pluriel toujours, tiré du 6, culture.org. Voilà, donc vous avez plusieurs points de contact pour joindre la cellule. Et cette cellule qui décroche au téléphone quand vous l'appelez, ce sont des experts de l'accompagnement social qui sont des collaborateurs audience qui travaillent sur le champ du social depuis de nombreuses années, évidemment, et qui ont été formés spécifiquement pour répondre aux situations de VHSS. Donc, un premier niveau d'accueil que l'on reçoit et qui nous permet de déceler le besoin qui est exprimé ou parfois induit, et de pouvoir ensuite orienter vers donc soit des psychologues cliniciennes qui vont apporter comment dire un premier je cherche le terme, pardonnez-moi, enfin des premiers outils pour dépasser les situations, et puis des avocats spécialisés qui eux vont s'approprier plutôt les éléments juridiques qui vont orienter les victimes et les témoins. Donc sur les victimes, évidemment, il va s'agir plutôt de situations directement, comment dire, qui leur sont directement orientées, alors que pour les témoins, bien souvent, les avocats doivent répondre à la question de la responsabilité du témoin. Quel est mon niveau de responsabilité si je témoigne? Quel est mon niveau de responsabilité si je choisis de ne pas témoigner? Qu'est-ce que je risque à le faire, mais aussi à ne pas le faire? Voilà, donc c'est globalement le type de question qui est posée aux avocats quand on est témoin. Et puis, on a les référents VHSS aussi, j'en parlais, qui, elles, vont pouvoir être confortées aussi dans l'idée qu'elles sont protégées dans le cadre de leur fonction en tant que référent VHSS quand elles ont des situations à gérer ou quand elles prennent part aux enquêtes internes, parce que c'est souvent le cas. Et puis, elles vont aussi être orientées vers des psychologues, parce que les référents VHSS, on l'a dit tout à l'heure, elles sont formées, mais relativement peu tout de même. Et parfois, elles sont face à des situations qui sont extrêmement violentes psychologiquement, tout simplement parce que en plus elles connaissent bien souvent les victimes, etc. Donc les psychologues, c'est aussi un très bon outil pour ces référents-là et pour les aider au quotidien. Donc le soutien psychologique, j'en parlais, des psychologues cliniciennes, leur rôle, c'est évidemment d'aider à libérer la parole et puis d'aider à surmonter les conséquences de ce qui est vécu, parce que bien évidemment, c'est traumatique, quel que soit le niveau. Qu'il s'agisse de harcèlement sexuel ou de viol, pour aller sur le niveau le plus extrême, quoi qu'il en soit, c'est toujours très traumatisant quand on fait face à ces situations-là. Je ne vais pas m'amuser à répéter les chiffres que tout le monde connaît, mais plus d'une femme sur deux a, dans sa carrière, fait face à du harcèlement sexuel, à un agissement sexiste, voire plus. Donc, évidemment, c'est très, très compliqué et les psychologues sont là pour accompagner cette libération de la parole. Le conseil juridique qui est lui réalisé par des avocats. Donc, son rôle intervient à trois niveaux. Il va tout d'abord, au regard des éléments qui lui sont apportés, qualifier les faits sur le plan juridique. Et ça, c'est très important pour les victimes parce qu'elles ont besoin d'être rassurées sur ce qu'elles vivent. Il y a tellement d'agissements qui ont été banalisés dans le temps et sur des décennies qu'aujourd'hui c'est parfois encore très difficile pour une victime de réaliser la gravité en fait de ce qu'elle vit. Et le fait de pouvoir se le faire entendre et confirmer et attester par un avocat que la situation elle est pas normale et qu'elle relève du harcèlement ou d'une discrimination sexiste, etc., c'est hyper important pour elle. Ensuite, ils vont aborder donc les procédures judiciaires, donc expliquer un petit peu le fonctionnement de ces procédures judiciaires, donc à différents niveaux, parce que c'est vrai qu'il y a on parle beaucoup du pénal, mais il y a aussi le prud'homal, par exemple. Donc il y a différents niveaux d'intervention sur les actions en justice. Et puis enfin, elle va servir à, pardon, enfin cette procédure, ces explications vont servir à expliquer quelles sont les démarches qui peuvent être engagées, parce que porter plainte en soi, c'est à la portée de tous. S'agissant de situations aussi particulières, les mots sont importants et être accompagné par un avocat pour porter plainte, c'est quand même un outil qui est extrêmement précieux au moment de la plainte. Voilà, pour choisir les bons termes, etc. Être accompagné par un avocat, c'est important. Sauf qu'un avocat, ça a un coût. Donc, le conseil juridique va pouvoir expliquer le principe de l'aide juridictionnelle, de la protection juridique qui existe. Il va pouvoir aussi rappeler que, étant adhérent auprès d'Audience, il y a un service d'action sociale chez Audience qui peut être susceptible d'étudier une demande d'aide financière pour accompagner une plainte. Donc voilà, l'avocat va aussi balayer ce volet un peu financier des procédures engagées. Alors arrêtez-moi, j'y vais parce que comme la présentation est un peu longue, j'enchaîne mes slides, mais surtout n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Alors, je voulais vous apporter aussi un petit peu quelques chiffres parce que c'est toujours parlant les chiffres pour réaliser un petit peu les choses. Donc, je le disais, la cellule, elle est née en 2020. On était à ce moment-là sur une période de crise sanitaire, donc il y avait très peu d'activités et du coup très peu de possibilités aussi de communiquer sur l'existence de cette cellule. Donc, elle a commencé à prendre un petit peu plus d'ampleur plutôt en 2021 et très franchement en 2022. Et en 2023, on a vu une augmentation près de 50% des entretiens qui ont été menés. Donc, nous sommes, depuis la création de cette cellule, à 1030 appels et mails qui ont été reçus. Sur ces appels et mails reçus, on a différentes typologies d'appels. Vous le voyez ici, pour ceux qui le voient, nous avons 309 appels qui concernent directement le périmètre de la cellule. Ce que ça entend, c'est que ces appels relèvent de notre champ d'intervention. Donc, ces personnes ont pu être orientées vers des psychologues et des avocats et être accompagnées. Les personnes qui font partie du reste des appels qui ne relèvent pas de notre périmètre sont les personnes qui nous ont contactés parce qu'ils ont trouvé nos coordonnées et qu'ils vivent en fait des situations de VHSS, mais qui relèvent plutôt de l'ordre du privé, qui ne s'est pas déroulé sur le milieu professionnel. Donc ici, on va les réorienter vers le 3919, bien évidemment, qui est la plateforme nationale enfin, contre les violences faites aux femmes. Et puis, on a aussi de nombreux appels d'employeurs, on disait tout à l'heure, qui se retrouvent en fait face à quelques questionnements, quelques difficultés, dès lors qu'un signalement leur est fait. Ils ont été outillés parce que il y a évidemment des fiches pratiques, il y a des accords de branche qui détaillent quel est leur rôle d'intervention quand un signalement est fait, mais après, effectivement, quand ils y sont confrontés, parfois c'est difficile. On nous demande, est-ce que là, ça relève de ma responsabilité? Oui, non. Moi, j'ai besoin d'être accompagnée parce que j'ai une enquête interne à faire, mais moi, ça me paraît compliqué au vu de la situation. Voilà, on a ce genre de remontée qui nous est fait de la part des employeurs. Malheureusement, à date, on ne peut pas en fait les aider et les orienter vers nos avocats, puisque cette cellule s'adresse uniquement aux victimes et aux témoins. Mais ça nous permet malgré tout deux choses de noter que cette cellule, elle est de plus en plus visible parce qu'on a de plus en plus d'appels. Et puis ça nous permet aussi de noter les besoins qu'on se doit de faire remonter au ministère de la Culture et aux partenaires sociaux avec lesquels on travaille sur cette cellule-là. Donc ça fait émerger des besoins, comme on l'a abordé tout à l'heure ensemble. Alors sur le profil des appelants, bon, c'est pas une surprise, majoritairement ce sont des femmes à hauteur de 83%, mais on ne néglige pas non plus des appels d'hommes qu'on a aussi, qui subissent également du harcèlement sexuel ou des agressions. Donc il y en a. Et puis on a aussi 52% de victimes et 17% de témoins, 4% de référents VHSS et puis 27% d'appels d'autres demandes. Donc, ce sont des informations sur la cellule. On a des associations, des entreprises qui nous appellent. Et puis aussi, récemment, en 2023, on a eu quelques écoles du milieu qui nous appellent parce que ils sont aussi demandeurs de sensibilisation et de prévention à destination des étudiants du cinéma ou enfin même de la musique, de différents milieux. Et ils nous appellent aussi pour les aider à leur donner en fait quelques billes. Donc évidemment, on les dirige, mais on y répond parfois. On a fait des présentations de cette cellule, par exemple, pour une petite anecdote, à des étudiants qui étaient en dernière année en master et qui étaient sur le point de rentrer en fait en activité. On a été présenté à la cellule puisque ce sont des professionnels de demain. Alors, sur la répartition des victimes ou des témoins à proprement parler, donc on a 86% de femmes, on a 20% de victimes ou de témoins de 25 à 35 ans, 10% de 35 à 45 et 8% de plus de 45 ans. La latitude entre ces chiffres-là, ce sont des personnes qui n'ont pas souhaité indiquer leur âge. On rappelle que la cellule, elle est anonyme, donc on prend les informations qu'on veut bien nous donner, mais on n'ira jamais creuser plus loin. Donc on n'aura pas forcément toutes les indications en termes d'âge, de secteur professionnel, de milieu professionnel ou même de secteur géographique. Donc pour ce qu'on en sait, on a 65% des appels qui relèvent du secteur du spectacle vivant, 29% du spectacle enregistré, 4% sont des artistes-auteurs et 2% sont des salariés des arts visuels. En termes d'orientation, donc psychologique et juridique, nous avons accompagné 242 personnes donc depuis l'ouverture de cette cellule, dont 92 sur l'année 2023. Ce qui montre quand même une vraie hausse au fur et à mesure que la cellule en fait prend de l'âge, si on peut dire. Donc 111 personnes mises en relation avec une psychologue et 131 personnes mises en relation avec un avocat. Donc, on observe une évolution croissante, je vous le disais, du nombre d'accompagnements proposés entre 2022 et 2023. On est à plus 62% de soutien psychologique et plus 40% de conseils juridiques. Donc, ça montre deux choses qui sont assez positives. D'une part, c'est que la cellule, de plus en plus, est visible et que donc, elle a de plus en plus matière à soutenir et accompagner les personnes qui subissent ces VHSS. Et puis sur les 40% d'augmentation en un an de conseils juridiques, de plus en plus, on a le sentiment que les personnes ont envie d'agir. Elles ont envie de pouvoir s'outiller pour pouvoir réagir et s'interroger sur des actions en justice. Donc ça, c'est assez intéressant à noter et ça montre une démarche qui suit un petit peu aussi l'actualité. La libération de la parole se fait de plus en plus. Le fait qu'elle soit médiatisée par des personnalités, ça aide forcément à donner une impulsion pour libérer la parole. Et on a vraiment espoir que ça continue dans cette direction. Ensuite, quelques éléments sur les situations. Donc, on a 54% des faits qui datent de moins d'un an et 26% qui datent de plus d'un an. Là encore, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une réactivité dans les situations. On nous appelle de plus en plus tôt par rapport aux faits qui viennent de se dérouler. Donc, ça, c'est engageant aussi sur la volonté en fait de dénoncer et de faire cesser. Et puis, 26% qui nous appellent sur des situations de plus d'un an, ça aussi c'est intéressant parce que on sait qu'il est très très difficile de passer ce cap, de pouvoir parler. C'est très difficile de parler à son entourage. Cette cellule, elle est justement là pour accompagner ces personnes qui se sont senties isolées et qui n'ont pas pu parler avant. Aujourd'hui, elles ont une voix d'écoute et puis elles peuvent être accompagnées, orientées. Ensuite, 70% des situations rencontrées sont le fait de supérieurs. Ça aussi, c'est un chiffre qui est intéressant. 70% dans le secteur de la culture, ça me paraît finalement assez logique, puisqu'il y a toujours cette notion de modèle très souvent dans les métiers artistiques qui fait qu'on a beaucoup d'admiration pour des personnes qui jouent un peu le rôle de mentor en fait dans ces secteurs-là. Donc c'est pas très étonnant. Et puis il y a ce sentiment de pouvoir aussi qui fait que les supérieurs se sentent en capacité à pouvoir imposer quelque chose. Et donc là la notion d'emprise, c'est quelque chose qu'on voit encore beaucoup et qui est très très présent. Parfois les gens réalisent finalement ce qu'ils ont vécu après 4-5 ans écoulés à vivre ce genre de situation. Donc là aussi, c'est des chiffres qui sont plutôt parlants. Et ensuite, sur la répartition des typologies, c'est quelque chose qui, vous le voyez, est plutôt équilibré, puisqu'on a 52% qui relèvent d'agressions physiques et 48% qui sont plutôt des attitudes et des propos sexistes ou sexuels. Ensuite, quelques constats. Donc, les victimes expriment de plus en plus leur volonté de ne plus laisser faire. Les notions de harcèlement et de violence sexiste et sexuelle sont encore très floues. Et je vous le disais, c'est la raison pour laquelle on les met à disposition sur le site internet. C'est pour que, à la lecture juridique de la définition de ces faits-là, on soit à même de pouvoir se dire, en fait, ça ressemble à ça. Voilà. Et je peux mettre un terme dessus. Et ensuite, je peux être confortée par un avocat de la cellule sur ce que je suis en train de vivre. Ensuite, l'impact de procédures judiciaires sur la carrière est un frein majeur. Évidemment, on a des retours des avocats qui nous font un retour plutôt qualitatif, hein, puisque évidemment, ils sont soumis au secret professionnel, donc ils ne partagent pas avec nous ni l'identité, ni les précisions des situations. En revanche, ils nous font un retour un peu qualitatif de leur ressenti sur ce qui leur est rapporté. Et aujourd'hui, sans aucune surprise, il y a toujours une crainte sur l'impact sur la carrière si je parle. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment l'enjeu majeur qui aujourd'hui représente le frein à la libération de la parole. Ensuite, l'importance de la communication dans tous les environnements de travail. Évidemment, plus on va communiquer, plus on va parler et plus on va rendre possible pour les personnes qui vivent ces situations la libération de la parole. Donc c'est très important, tout le monde a son rôle à jouer en tant qu'administratif, en tant qu'encadrement, en tant que professionnel tout simplement, l'affichage dans les loges, sur les feuilles de route avec les scénarios par exemple. Enfin, il y a différentes possibilités pour communiquer, vous les connaissez bien mieux que moi, mais c'est très très important de communiquer encore et encore. La formation, c'est une chose, mais la formation, une fois qu'on l'a eue, elle est passée. Donc, la communication sur le moyen de pouvoir solliciter une aide quand on se sent seul face à une situation, il est très très important. Et donc, un outil de communication qui est mis à disposition, lui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est notre site internet qu'on a essayé de composer un peu comme un centre ressources. Donc, on a segmenté, que vous soyez employeur ou professionnel, les outils qui sont les plus opportuns pour répondre à des questions sur « je vis ça, qui je peux contacter, qui peut m'aider ?»« On m'a signalé ceci, qu'est-ce que je dois faire ?» Qui peut m'accompagner? Donc, vous avez tout un tas d'outils qui sont créés par tout un tas de réseaux, de partenaires, d'institutionnels qui sont regroupés sur le centre. Donc, on va retrouver les accords de branche, on va retrouver les fiches outils du collectif 50-50, on va retrouver aussi plein de fiches pratiques faites par le secteur associatif. On a tout ça qui est composé ici sur ce site-là, que vous soyez employeur ou professionnel. Et puis, on a fait un classement aussi par secteur, parce que selon que vous soyez spectacle vivant ou enregistré ou jeu vidéo ou artiste-auteur, bien évidemment, les interlocutions sont parfois différentes. Voilà, donc vous avez ici quelques modèles, un annuaire d'associations et puis des fiches outils avec des contacts utiles. Et enfin, pour vous aider dans votre communication, on a mis à disposition nos kits médias. Donc, vous avez des affiches au format A3, format A4, vous avez des flyers, vous avez des tout petits autocollants, vous avez amplement de quoi diffuser l'information. Et puis, si vous avez des besoins sur des plus gros événements, bon, je parle par exemple par rapport à Médiane, si vous avez besoin, par exemple, vous, de support papier, vous pouvez nous le demander aussi par mail et puis on peut vous en envoyer. Et on le fait aussi sur chaque gros événement sur lesquels on se déplace, on communique, on communique, on communique. Voilà, et je crois que je suis arrivée au bout.
Eh ben, merci beaucoup.
Merci pour tout
ça. C'est très précis, très complet et très clair.
C'est super.
Ça donne, voilà, c'est vraiment intéressant. Je pense que là, effectivement, on a plein de réflexes, bons réflexes à avoir.
Il nous reste très peu de temps, mais j'aimerais quand même qu'on n'a pas parlé. On a beaucoup parlé de cinéma et d'audiovisuel, etc., etc. On n'a pas du tout parlé des petites compagnies de théâtre, et notamment d'Avignon, qui est un festival où ça, il y a beaucoup de petites compagnies de théâtre qui sont souvent des amateurs qui se professionnalisent ou des semi-professionnels qui ne sont pas forcément dans les bonnes démarches. Est-ce qu'il y a des actions qui sont faites du côté du spectacle vivant? Voilà, et à quel point? Et est-ce qu'on a des retours? Est-ce qu'on sait? Parce que dans le théâtre, on le connaît dans les grands théâtres publics, on en entend parler évidemment, parce que ça peut faire du bruit quand il y a des soucis, quoique pas toujours. Mais qu'est pas ça, comment ça se passe?
Voilà. Parce qu'on sait que dans les petites compagnies, il y a aussi pas mal de choses qui s'y passent.
Et on précise, oui, la AFA aussi a une commission sur les VHSS, on n'a pas parlé de la AFA, actrice et acteur de France Associée. On peut aussi les mentionner ici, parce qu'ils font aussi un boulot remarquable sur le sujet. Donc c'est un relais en plus, et il faut en parler aussi, bien sûr. Et au niveau des compagnies de théâtre, alors est-ce qu'on a des chiffres, des actions, des choses ou pas?
Alors, votre question, elle porte sur des actions de communication ou sur des éléments de retour qui les
Les
concernent?
deux, si vous avez les deux, ce serait bien.
Alors, sur les actions de communication, nous, ce qu'on fait, alors je parle pour la cellule, parce qu'après, il y a les partenaires sociaux, évidemment. Nous, nos actions de communication, en fait, le concept est assez simple. Dès qu'il y a une sollicitation, on dit oui. Donc, dès qu'on nous demande d'intervenir pour parler des outils de la cellule, on y va. On propose, autant que faire se peut, aux associations qui regroupent en fait finalement tout un tas de professionnels qui travaillent dans le théâtre de faire des webinaires comme on le fait là également. Et puis évidemment, on est présent à Avignon, on est présent sur toutes les grandes rencontres du milieu du théâtre, des arts de rue aussi. Enfin voilà, on se déplace. En termes de communication, c'est beaucoup ça. Et puis dès qu'on nous sollicite, on participe et très souvent, c'est en partenariat avec les syndicats, les partenaires sociaux des secteurs du spectacle bah, privé dernièrement. Enfin voilà, c'est ça nos axes de communication. Ensuite, sur des chiffres spécifiques au secteur théâtre. Alors non, parce que pour une raison qui est assez simple que j'ai dite dans la présentation, c'est qu'on respecte l'anonymat.
Oui.
Donc en fait, quand on nous dit
Alors.
bah moi je travaille dans le spectacle vivant, ok, elle est dans le spectacle vivant. Quand on a un indice qui dit j'ai été sur scène lors d'une représentation, bon là on se dit ok, peut-être qu'on est là. Quand elle dit oui sur un lieu de tournage, bon on se dit ok, on est peut-être là sur du ciné ou de la télé. En fait, on recueille des bribes d'informations comme ça, mais on n'est pas du tout intrusif dans nos questionnements. C'est pour ça qu'on n'est pas à même aujourd'hui de pouvoir vous donner des chiffres qui auraient du sens. Voilà.
Okay. Mais et en termes de prévention et de sensibilisation, parce que là on a vu qu'il y avait des référents systématiquement sur les tournages. Enfin, c'est en cours,
Ça
ça
devient.
devient une norme, ça devient une pratique obligatoire. Est-ce qu'il y a ces mêmes pratiques obligatoires pour les petites compagnies de théâtre dans les théâtres? Est-ce que c'est le théâtre qui doit avoir un référent? Est-ce que c'est la compagnie? Est-ce que c'est le producteur? Parce qu'à Avignon, on sait que les théâtres sont c'est de la location pour beaucoup. Enfin,
Bah, à Paris aussi, il y a beaucoup de salles,
et à
ouais.
Paris aussi, il y a beaucoup de salles.
Les
Enfin,
co-réalisations.
bien sûr. Qui devient, enfin, qu'est-ce qui est fait et comment ça se passe concrètement, si on pouvait. Jimmy, tu as peut-être des éléments
Simplement,
supplémentaires.
il y a, alors les petites compagnies sont comme des petits tournages, hein. Il n'y a pas d'obligation légale, par exemple, concernant les référents. Il y a quand même la même obligation de protection des
Oui, c'est
salariés.
ça.
Par contre, les grands théâtres, les opéras, ils ont du monde et ils ont en général des CSEE. Donc, à partir du moment où il y a CSEE, il y a une obligation de mettre en place un certain nombre de démarches en ce qui concerne la lutte contre le harcèlement, les référents, etc. Les documents d'évaluation de risque, on n'en a pas parlé, mais ça aussi, il faut qu'ils les remplissent et il y a le risque de violence et harcèlement. Il n'y a pas de CCHCT. De CHCT dans le spectacle vivant pour l'instant. Dans le spectacle vivant privé, ils en parlent un peu de mettre en place un CHCT de branche, mais pour l'instant, ça n'avance pas très vite. On va bien voir. Nous, on pousse pour, comme on a poussé aussi dans le domaine du théâtre subventionné. Pour l'instant, là non plus, il n'y a pas de CHCT de branche, mais il y a quand même les mêmes obligations et le même, comme dit Nadia, le même information qui est faite à tout le monde dans les conventions collectives. C'est intéressant ça que dans les deux conventions collectives de spectacle vivant, il y a maintenant des dispositifs concernant le VHSS qui n'existent pas encore dans la convention collective de la production audiovisuelle ni dans le cinéma, même si les actions effectives ont commencé bien avant le théâtre. Donc on discute comment intégrer des choses générales concernant la lutte contre le VHSS dans les conventions audiovisuelles, ainsi que nous spécifiquement, on discute et on a déjà commencé à en discuter et on pousse pour qu'il y ait des dispositions spécifiques pour les artistes interprètes et les artistes compléments dans les deux conventions audiovisuelles, c'est-à-dire pour intégrer ce qu'on a fait, mettre dans le kit. Donc, quelqu'un a mis les références dans le chat, d'intégrer ces dispositifs concernant les auditions, concernant les tournages de scènes intimes, dans la convention collective.
Ok, très bien.
Sans oublier l'articulation entre les VHSS et coordinateurs et coordinatrices oui, d'intimité.
Alors, sur les coordinateurs, on a enfin réussi à faire en sorte que... Ça, c'est quelque chose que, là, spécifiquement, c'est le SFA qui a pu emmener ça, parce que depuis plusieurs années, on en parle au niveau international, parce que dans des pays... d'abord anglophones et ensuite dans les pays nordiques, ce sont des choses qui ont des métiers qui ont été mis en place bien plus tôt. Et puis l'arrivée, comme quelqu'un a dit, l'arrivée de Netflix avec une politique générale et internationale de lutte contre les violences a fait que les gens ils sont commencé à s'y habituer. Pour l'instant. Au niveau de la CPNEF, la Commission paritaire nationale emploi et formation audiovisuelle, on a enfin réussi à avoir une étude qui a été menée, donc les conclusions ont été présentées cet été. Il y a une fiche métier qui a été établie et qui est dispo sur le site du CPNEF AV et on espère qu'il y aura la prochaine étape. C'est une certification ou une homologation, il faut voir exactement, parce qu'il n'y a pas de formation spécifique en France pour l'instant, mais il y a des formations considérées comme valables, notamment en Angleterre et aux États-Unis. L'idée, c'est de faire en sorte qu'à terme, on puisse faire ça ici, mais en commençant par certifier ceux qui ont une formation à l'étranger, pour que quand on dit « j'ai un coordinateur d'intimité sur mon tournage », ce soit effectivement quelqu'un qui est qualifié pour le faire.
Ouais,
pour l'instant, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y en avait 6 en France, et en fait, il y en a 3 qui sont auto-formés.
Ouais.
Donc, au revoir.
Voilà, ouais. Merci voilà. beaucoup pour cette
merci,
précision.
Merci, Jimmy.
Sonia,
tu as une question, une question, une précision, quelque chose à Sonia?
Oui. Oui, pardon. Vous me voyez, vous m'entendez?
Oui, on te voit
bien.
Et on t'entend.
Très bien. Super. En fait, merci Nadia pour cette superbe présentation déjà. Ce qui m'a interpellée au sujet des écoles, moi-même ayant passé une école de théâtre supérieur en Allemagne, je suis franco-allemande, je suis comédienne aussi. Donc, ce qui m'a interpellée, c'est qu'il y a une intervention en troisième année. Voilà. Préparation vers le terrain professionnel, mais de ma propre expérience, il faudrait en fait une sensibilisation à partir de la première année au cours de la formation même, parce que c'est là où moi personnellement, mes collègues, mes amis, toutes, elles ont vécu des violences, de l'harcèlement et voilà, plein d'histoires vraiment traumatisantes et qui ont eu un impact aussi en fait à leur identité en tant que comédienne, artiste, etc. Donc, bon, il y a 20 ans, je ne sais pas ce qui a peut-être changé, mais il y a 20 ans que moi, j'ai passé ma formation, donc peut-être qu'il y a déjà plein de choses en cours, mais voilà, c'est ce qui m'a travaillé maintenant la tête pendant que je vous ai écouté pendant une promenade, c'est pour ça que je suis pas à bout de souffle. Pardon, merci.
Merci beaucoup, Sonia.
Oui. On en parlait de la situation de la formation et c'est un vrai questionnement et
dès la première année
et là Nadia la cellule n'est pas la mission, c'est justement pas le champ d'application de la cellule, c'est en situation professionnelle exclusivement.
Voilà, alors deux choses, c'est que la cellule elle s'adresse aux professionnels en activité. Le fait que ce soit des professionnels imminents nous a permis d'accepter ça et on le fait très peu hein. Pour le moment on l'a fait que deux fois, mais ça nous a paru important de le faire. Donc ça c'est une première chose. Ensuite la deuxième chose c'est que tout ce qui relève de la formation et de la sensibilisation, alors c'est pareil sur le terrain des professionnels, mais c'est pas notre rôle, c'est le rôle de l'AFDAS en fait de faire ce comment dire, de tenir ce rôle là. Nous, on y participe de manière différente. Et puis après, les étudiants, malgré tout, alors, rien n'est parfait, hein, rien n'est parfait. Mais il y a quand même des choses. Déjà, ils ont une plateforme qui leur est dédiée par le ministère de la Culture qui est différente, qui s'appelle RSE Concept. Voilà, anciennement, avant c'était Allo Discrim, maintenant c'est RSE Concept. C'est une plateforme qui permet de signaler et qui permet aussi d'être mis en relation avec une psychologue. Donc, il y a quelque chose qui existe pour les étudiants. En revanche, des échos qu'on a, c'est vrai que dans les écoles, il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui commencent à agir, à faire de la prévention, à en parler. Bah, d'ailleurs, sinon on ne sera pas sollicité. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Mais effectivement, ça a toujours été fait un peu à retardement. Et aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, je pense, au sein des écoles. Et je pense qu'ils mènent des actions pour pouvoir, dès la première année, je suis d'accord, c'est essentiel pour pouvoir parler de ces sujets-là afin d'anticiper. Donc, ça ne relève pas de notre champ, mais on est d'accord sur le fait que c'est un besoin, on le fait remonter et on observe qu'il y a des choses qui bougent. Maintenant, il y a quand même un truc qui est hyper, hyper satisfaisant, c'est que nous, ce qu'on note, c'est que les jeunes, ils sont pas, comment dire, ils sont intolérants à toute forme de sexisme, harcèlement, agissement, quoi que ce soit. Ils sont au taquet. Ils ne tolèrent rien. Et ça, on aime. Donc, j'ai beaucoup d'espoir pour ces générations qui vont participer à changer les choses parce que eux, ils sont spectateurs de ce qui se fait aujourd'hui, mais ce sont les acteurs de demain pour changer cette société et faire exploser toute cette omerta, ces tabous, etc., qu'on se traîne depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, voilà, c'est pas mon rôle, c'est pas le rôle de la cellule malheureusement, mais par contre on y est attentif, on participe dans la mesure de ce qu'on peut, et oui, je pense que les écoles, elles ont quand même entendu ça, elles sont soutenues par le ministère de la Culture avec la plateforme pour agir en ce sens, donc c'est plutôt encourageant.
Tout à fait, et on ne peut que s'en réjouir, et ça me fait penser, en réaction à ce que tu disais Nadia, c'est qu'il faudrait aussi former les formateurs, les profs qui ont... parfois, parce qu'il y a toute une déconstruction à faire.
Ouais,
c'est-à-dire quelquefois, alors quelquefois ils sont ignorés, ils sont clairement limités, voire ils abusent d'un pouvoir. Et il y en a d'autres qui ont des comportements ou des faits, des propos sexistes, mais presque ils s'en rendent pas compte. Quoi. Enfin, c'est-à-dire
et
que
bah, c'est exprès pour vous, hein.
Alors il y en a qui s'en rendent compte clairement. C'est des pervers narcissiques, c'est des vicieux, c'est tout ce qu'on veut. Mais il y en a d'autres, je pense, de bonne foi, ont des comportements sexistes, sexuels, enfin, de harcèlement ou de violence. Et s'en rendent pas compte parce que justement on a baigné tous et toutes dans cette espèce de magma un peu nauséabond et justement d'omerta, et qu'il y a certainement une formation des formateurs, et voire même intégrer ça chez les formateurs.
Enfin, évidemment, évidemment. Et après,
là,
c'est moins mon domaine, mais peut-être, et je l'espère, que ça existe. J'espère que ça existe. Enfin, ce serait très étonnant que ça n'existe pas. Je me renseignerai pour le coup parce que je trouve ça intéressant.
Ce serait intéressant, ouais. C'est vrai.
Mais il y a toute une pédagogie effectivement qui est à refaire. Hein. Après, si on va aller plus loin, je pense que c'est au niveau de la société qu'il faut refaire toute la pédagogie.
Oui, mais ça commence aussi. Enfin, ça commence aussi par qu'est-ce qu'on dit aux jeunes en fait, à des profs dans les écoles lambda et des profs dans les écoles de théâtre et dans toutes les écoles en général. Jimmy, parce qu'on arrive à midi et demi, on arrive à la fin. Jimmy, est-ce que tu veux avoir le mot de la fin, rajouter quelque chose.
Le mot de la fin. Non, je voulais intervenir. J'étais complètement d'accord avec ce que Nadia a dit à la fin. La seule chose sur laquelle j'aurais une nuance, c'est que je pense que c'est beaucoup plus la responsabilité de l'éducation nationale et de la culture pour intervenir. L'AFTAS, c'est vraiment pour les profs. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire à l'AFTAS pour la formation des profs de théâtre.
Oui.
Parce que beaucoup sont déjà des comédiens ou des comédiennes ou des chanteurs ou des danseurs, etc. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire là. Par contre, les conservatoires, c'est vraiment, ça relève soit de la culture, soit de l'éducation nationale, soit des collectivités. Et il y a sans doute des choses à faire à ce niveau-là. Mais globalement, d'ailleurs, et c'est lié un peu avec ce qu'avait dit Sonia par rapport à l'Allemagne, ici, il y a très peu très peu d'interventions au niveau des écoles sur l'environnement professionnel dans lequel ils vont se retrouver une fois formés. Et c'est un vrai problème. Il y avait autrefois à l'ANSAT quelque chose quand c'était encore rue Blanche, mais depuis que c'est à Lyon, il n'y a plus. Et je ne sais pas ce qui se passe au conservatoire.
Et puis l'ENSAT, c'est quand même pas, ils forment des acteurs, mais ils en forment une dizaine ou une quinzaine par an. Donc c'est pas là où il y a c'est
Il y a le
important.
plus de, ouais,
Il
c'est
y a
clair.
tous les petites,
Et il y a tout, y a, oui.
toutes les petites écoles
Et
privées.
puis
Oui,
et toutes les écoles privées, comme l'école, enfin,
évidemment.
je voudrais pas leur faire de la pub, mais enfin, ils ont énormément, énormément, énormément de monde, énormément de profs. Donc,
Nadia, le
Nadia?
mot de la fin?
Alors oui, parce que c'est juste une petite question enfin, un élément qui m'intéresse à chaque fois que je fais des interventions. J'aurais bien aimé savoir, parce que je ne vois pas tout le monde, mais peut-être que vous aurez l'info avec les prénoms peut-être. Combien est-ce qu'il y a d'hommes parmi nous aujourd'hui?
Alors là, on a un, deux.
Bonjour Jean, merci.
On va regarder ici. Ben, je crois
On
qu'on a
a
deux.
deux, on en a deux.
On a deux. Plus moi, hein, je suis là.
Oui, ça fait
Et moi, c'est
quatre.
parce qu'Emmanuel m'a obligé.
Voilà, en fait, c'est ça, je dirais que le mot de la fin, pour moi, hein, ce serait peut-être que les choses, elles vont changer parce qu'aujourd'hui, chaque organe, quel qu'il soit, participe à ça. Maintenant, il faut que ce soit un peu plus porté, je pense aussi, par l'agence masculine, c'est hyper important.
Absolument, ouais, c'est
Tout
évident.
à fait.
C'est-à-dire que c'est ensemble qu'on y arrivera. C'est pas juste les
Exactement.
uns. C'est les uns avec les autres, pas les uns contre les autres. Ça, c'est clair.
Tout à fait.
La grève féministe qui est prévue pour le 8 mars est censée être portée par les hommes féministes aussi.
En tout cas, merci
Merci
à,
beaucoup à
merci
tout le
à
monde.
toutes et à vous, les deux représentants de la gente masculine ici présents. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été là. C'était super. On est ravis, Nadia et Jimmy, de vous avoir eu. Et merci de tous ces éclairages, de toutes ces choses qui sont quand même porteuses de plein d'espoir, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font, beaucoup de réflexions. C'est pris en compte, ça avance, ça bouge. Et ça a bougé depuis 3 ans, vraiment. Et ça va continuer de bouger ces prochaines années. Donc ça, c'est quand même là, ce qu'on peut en retenir.
Et on va suivre ça de près.
Et soutien à toutes et à tous qui avaient pu vivre des situations
Compliqué.
compliquées, pour donner que ce mot-là. Et bah, très bientôt, on ne sait pas quand ce sera le prochain webinaire,
Je ne
mais
sais pas.
suivez-nous sur notre newsletter et tout ça, et vous le saurez. Bonne fin de journée.
Merci,
Merci
merci
à tous.
beaucoup.
Bye
Merci
bye. Au revoir tout
beaucoup.
le monde.
Bonne journée.
Ciao, ciao.
Merci
Bye. Merci,
beaucoup.
au revoir. Au revoir.